Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
C'est l'heure des bulletineuses du vendredi. Bonjour Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour Antoine Robitaille. Bonjour Antoine.
Bulletineuse, hein, je le rappelle, parce que tous les vendredis, on remplit avec elle les bulletins de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. On est alternativement gentil et méchant. Alors, nos bulletineuses, je les présente. C'est deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et on commence par Yasmine, c'est Yasmine qui décide, comme disait Yves Bolduc, avec un méritas, le méritas numéro un, retour au naturel.
Oui, je trouvais que cette semaine, André Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, est revenue à ce à quoi elle nous a habitués, donc de la rigueur et quelqu'un de beaucoup plus sûr d'elle avec des arguments plus intéressants que j'ai des amis courtiers, j'ai des amis inspecteurs en bâtiment. Encore André Laforêt, cette semaine, elle s'est fait poser des questions, notamment sur la crise du logement, la crise que l'on ne veut pas reconnaître au gouvernement, soit dit en passant. Et elle semblait plus en contrôle du dossier. Est-ce qu'elle m'a convaincue? Non. Mais est-ce qu'elle était plus en contrôle de son dossier? Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et André Laforêt était beaucoup plus en contrôle cette semaine en période de questions.
C'est bon. Là, donc, évoluer. C'est très bien parce que il y a d'autres ministres dont on va parler plus tard qui font qu'on se met aux abris quand ils commencent à parler. Sophie, mais on est encore gentil, hein? On est encore gentil parce que Sophie remet son méritas premier et c'est effet de synthèse et efficacité. À qui?
À Marie-Claude Nicot, porte-parole de l'opposition officielle du Parti libéral en matière d'habitation communautaire. Et Marie-Claude Nicot a été très efficace. Puis tu vois, moi, je serais à la fois gentille et méchante parce que moi, j'ai pas trouvé qu'André Laforêt s'est ressaisi tant que ça. En fait, tant que je reconnais André Laforêt des qualités en tant que ministre des Affaires municipales, tant j'ai l'impression que le dossier de l'habitation est une lacune chez cette ministre qui est quand même l'une des ministres habiles. J'ai l'impression qu'elle aura perdu des points avec ce dossier-là. Mais revenons-en à l'esprit de synthèse et l'efficacité de Marie-Claude Nicole, qui dit que c'est l'heure d'être gentil.
Oui.
Que sa question était très bien structurée et elle, contrairement à la ministre, semble très bien comprendre, connaître et saisir l'essence du dossier, de la problématique, de la crise du logement, de la situation problématique en matière d'habitation communautaire. Marie-Claude Nicole, puis des fois, il y a des questions, on ne comprend pas où les députés s'en vont. Elle, c'était clair, elle s'en allait au bon endroit. C'est vraiment, vraiment une bonne question qui a été posée par Marie-Claude Nicole.
Mm-hmm. Puis c'est un progrès aussi. Moi, je pense qu'on pourrait lui remettre un méritas progrès parce que, je vais te dire, les premiers points de presse où elle a parlé de la crise du logement, elle n'était pas claire. Quand elle a justement proposé sa fameuse solution là, de rapper pour les familles, un nouveau rap, c'était pas clair. Et elle a rectifié le tir, puis c'est très bien, et ça se souligne. Mais soyons méchants, s'il vous plaît, mesdames. Un petit peu, hein? Bonnet d'âne numéro un. C'est Yasmine qui remet le bonnet d'âne pour une stratégie libérale décousue.
Là, on ne sait plus, Antoine et Sophie, c'est quoi la stratégie libérale en période de questions. Dans mon temps, puis là, ça me vieillit là, de dire ça. Dans mon temps, quand on faisait un point de presse juste avant la période de questions, ça donnait une bonne indication sur c'est quoi le sujet du jour qu'on va vouloir amener en période de questions. Donc, on emmène notre chef, il déchire sa chemise, par exemple, je donne un exemple sur la crise du logement ou sur la fuite des données au ministère de la Famille. Ben, plus souvent qu'autrement, c'est la première question qui est posée en chambre, c'est sur ce sujet-là, c'est le sujet du jour. Ben, ils révolutionnent ça au Parti libéral. On ne sait plus c'est quoi leur stratégie, parce que un jour, c'est la ventilation. L'autre jour, c'est la santé mentale des Québécois. Tout est mélangé. On ne sait pas sur quel finalement clou ils tapent. J'ai l'impression que le Parti libéral mériterait finalement de s'asseoir et de faire une stratégie de période de questions. Ils prennent la période de questions beaucoup trop à la légère. Et il faut pas l'oublier que pour les partis d'opposition, la période de questions est une occasion de faire ce qu'on appelle, je m'excuse de l'anglicisme, une clip médiatique. T'sais, on veut démontrer, on veut avoir un 20 secondes dans le téléjournal sur le sujet le plus chaud du jour. La santé mentale des Québécois est très importante, mais en sentant que c'est pas le sujet qui était le plus chaud de l'heure, ce qui a fait en sorte que Dominique Anglade ne s'est pas distinguée durant les journaux télévisés avec ce sujet-là. Donc, revenant à une stratégie plus traditionnelle, elle était plus
difficile. Ouais. Mais Yasmine, je te dirais qu'il y a quelques semaines, on leur reprochait en même temps de ne pas décoller du sujet de la commission d'enquête sur la gestion de la COVID. Est-ce que tu voudrais qu'ils collent à un sujet comme ça, que même si c'est... Ouais.
Non, pas qu'ils collent à ce sujet, mais rappelle-toi, ils étaient sur la commission d'enquête sur la pandémie, on leur a reproché. La semaine dernière, on leur a donné un héritage parce qu'on trouvait qu'ils attaquaient un même sujet sur différents angles. Pénurie de main-d'œuvre, parlons-en pour la famille, parlons-en pour la santé, parlons-en pour les PME, mais ça se ressent que c'est le sujet de la semaine. Mm. Cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas c'est quoi le sujet qu'a voulu mettre de l'avant, finalement, l'opposition officielle. On ne le sait pas. Ils sont revenus à, finalement, chacun pose la question qu'il veut, mais il n'y a pas de dénominateur commun de tous les députés.
Sophie, Bonnedane, frappe préventive abusive.
Ouais, le président François Paradis, là, tu sais, je comprends qu'il veut garder une discipline au Salon Bleu, puis je comprends qu'on ne veut pas retomber dans des affrontements, presque des effets de toge à tous les jours, puis du criage, puis des applaudissements, tout ça à l'Assemblée nationale.
Est-ce que tu évoques l'air de Yvon Valium?
Colère! Yvon Valium, qui avait une grande difficulté à s'imposer, on se rappellera, qui avait de la difficulté à imposer son autorité sur le Salon Bleu. Mais François Paradis, qui y va fort avec la prévention, là, donc il met en garde cette semaine Marois Risky, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, qui pose une question, quoi, Michel, elle n'en ferait pas de règlement. Là, tu sais, elle recherche la vérité. La députée vient essayer de poser une question, puis là, le président Claire, comme si elle avait mentionné un terme qui est interdit, on le sait, au règlement de l'Assemblée nationale, il y a des termes qui ne peuvent pas être utilisés au Salon Bleu pour éviter justement les dérapages et pour garder ça dans un climat respectueux. Mais là, le président interpelle Marois Risky. Elle a eu une bonne répartie en lui disant, c'est bien la première fois qu'on va me dire que rechercher la vérité, c'est un terrain glissant. Donc, c'est le président qui lui avait dit, vous êtes sur un terrain glissant parce que simplement, elle essayait d'obtenir la vérité sur encore une fois la question de la qualité de l'air dans nos écoles.
Exactement. Yasmine, là-dessus?
Oui. Moi, ça m'a vraiment choquée finalement cette semaine parce que pour moi, ça, des présidents de l'Assemblée nationale ont vu leur finalement position remise en question. On se rappelle la démission d'Yvon Vallière, mais là, François Paradis, il devait faire doublement attention. Puis je m'explique. C'est un député de la CAQ. Et je comprends que quand on est président de l'Assemblée nationale, on doit faire preuve d'une très grande neutralité.
Oui, or, je tiens à dire aux auditeurs, il ne participe pas au caucus de la CAQ. Donc, c'est un député de la CAQ qui est comme en porte-à-faux.
Mais ce qui est particulier, c'est que cette frappe préventive, est-ce qu'on m'a rapporté sur les coulisses qu'on voit pas finalement à la caméra, nous qui regardons de loin, c'est que pendant que Marois Risky posait sa question, Simon-Jolin Barrette, leader du gouvernement, disait au président, lève-toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il s'est levé pour faire cette attaque préventive complètement inutile. Alors ça laisse croire, et on sait que la perception en politique, c'est la réalité, que le président de l'Assemblée nationale écoute un peu trop le gouvernement, duquel il est député finalement. C'est problématique. Il ne devrait pas être dans cette situation-là, le président de l'Assemblée nationale.
Sophie?
C'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait quelques fois qu'on a l'impression que les décisions qui sont prises par François Paradis sont un peu influencées par le gouvernement. On a l'impression qu'alors qu'il devrait avoir un recul, alors qu'il devrait vraiment travailler avec le secrétaire général de l'Assemblée pour rendre ses décisions, on est sous l'impression que François Paradis écoute ce que ses collègues de la CAQ nous disent parfois.
Mm-hmm.
Mais je dois aussi dire que durant la même période de questions, le ministre des Transports, François Bonnardel, a utilisé à différentes reprises des mots qui font partie de l'index, comme le mot « bobard », et qu'il n'a pas eu finalement de petite tape sur les mains de la part du président de l'Assemblée nationale. Alors, durant la même période de questions, François Paradis a senti le besoin d'être préventif avec une attaque inutile auprès de Marois Risky, mais n'est pas intervenu auprès de François Bonnardel. Ça alimente évidemment
le complot. Ouais. Je tiens à dire que Marois Risky est venue à l'émission et elle considère que son privilège parlementaire, là, qui est de pouvoir justement s'exprimer librement, a été violé. Et souvent, vous le savez, vous qui avez été dans les arcanes politiques, on soulève une question de privilège. Et ça, il y a eu des tensions chez les libéraux, clairement, parce qu'André Fortin, le leader libéral, a décidé de ne pas soulever de questions de privilège et a dit « Ah, il était sur la limite ». Mais Marois, c'était pas la position de Marois Risky. Je souligne que Marois Risky, on ne l'a pas revu à la période de questions de la semaine.
C'était vraiment préventif abusif, disons-le comme ça.
Oui, et peut-être que ça a suscité des tensions chez les libéraux aussi. En tout cas, c'est une hypothèse. Méritas, redevenons gentils. Justement, redevenons gentils. Boycott du mercredi. Yasmine, à qui tu remets ce Méritas?
Ben, on redevient gentils parce que d'autres ont été méchants. En fait, je remets le Méritas boycott de la semaine à tous les chefs des oppositions à l'Assemblée nationale. Dominique Anglade, Manon Massé, Pascal Bérubé, qui est le chef parlementaire finalement du PQ, n'ont pas adressé la parole à Geneviève Guilbeault pour contester l'absence du premier ministre à la période de questions du mercredi. Là, on l'a dit, on est tanné de l'équipe B du mercredi. Ben, je pense que les députés de l'opposition aussi. Alors, ils ne s'adressent plus à la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Les chefs d'opposition ne posent plus de questions, puis on enchaîne directement avec les questions des députés et des critiques des différents dossiers. Mm-hmm. Moi, je suis d'accord avec ça. Geneviève Guilbeault, je pense qu'il est temps là de se remettre en selle. Là, le premier ministre, là, le mercredi, il doit être là, il doit venir répondre aux questions. C'est fini l'équipe B.
Il y a eu du flou, hein? Yasmine, il y a eu du flou autour de ça parce que Geneviève Guilbeault a dit « C'est moi qui ai décidé de ne pas répondre aux questions. » Donc, je savais plus qui. C'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un boycott. Il y a eu des informations dans ce sens-là, mais plus tard dans la journée, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit là-dessus, nous, au journal. Donc, c'est flou, là. Mais c'est clair. Je pense que ton message est passé, Yasmine, puis c'est un message sur lequel on tape, on martèle ce message depuis quelques semaines, c'est-à-dire, ça suffit, l'équipe B. Méritas numéro 2 de Sophie, mettre le doigt dessus.
Oui, Véronique, bon, pose de nombreuses questions à Mathieu Lacombe, considérant, tu sais, dans l'état de situation des CPE. On se rappelle que Mathieu Lacombe, cette semaine, pour contrer la pénurie de places dans les CPE, est venu annoncer des places d'urgence qui seront dans des sous-sols d'églises, dans des locaux municipaux, des choses comme ça, pour réussir à combler cette problématique-là. On se rappelle qu'il y a 51 000 enfants actuellement en attente au Québec pour une place en CPE. Véronique Yvon qui pointe la problématique en disant oui, il y a un problème de place, mais il y a surtout un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et la pénurie de main-d'œuvre vient du fait que les conditions de travail des éducatrices sont peut-être pas ce qu'elles devraient être.
Mm-hmm.
Et moi, je trouve que ça, c'est dans l'angle mort de Mathieu Lacombe, qui, par ailleurs, fait plutôt bien dans son dossier. Il cherche des solutions, là. T'sais, il arrive avec des trucs créatifs, on va lui donner.
Il a l'air à se démener.
Il a l'air à se démener. Mais Mathieu Lacombe vient blâmer puis essayer de revirer ça sur Véronique Yvon, alors que là, on va se le dire, là. T'sais, les personnes qui ont rien fait en matière de développement de places en garderie pendant 15 ans, c'est pas le Parti québécois. c'est le Parti libéral qui est au pouvoir. Là. Fait que, c'est la mauvaise cible. Mathieu Lacombe, donc on remet à la fois un méritant et un bonnet d'âme. Donc un méritant, c'est Véronique Yvon qui a frappé sur le bon clou. Et Mathieu Lacombe en manque d'arguments, qui vient blâmer le Parti québécois pour l'absence de développement du réseau, alors que le Parti québécois, somme toute, a été au pouvoir pendant 18 mois au cours des 20 dernières années. Donc, faire attention peut-être parfois à ses arguments.
Mais ça aussi, on peut lui pardonner. On peut lui pardonner parce que il avait sa réponse écrite qui était destinée au Parti libéral, puis il l'a juste lu pour la réponse à Véronique Yvon. C'est plus... Il s'est trompé de feuille.
Avant que
on le pardonne pas, c'est pire.
Avant que tu donnes ton bonnet d'âne, Yasmine, je tiens à dire qu'on pourrait faire une catégorie mitoyenne entre méritance et bonnet d'âne, le méritane. Le méritane, hein, t'sais, un mélange des deux, un beau petit mot valise. OK, bonnet d'âne numéro 2, soyons méchants. Yasmine, bonnet d'âne script.
Là, c'est clairement pas un méritane, là, c'est un bonnet d'âne.
Oui.
Je suis nostalgique. Encore là, je me sens vieille aujourd'hui. Je suis nostalgique du temps où nos députés, nos chefs de l'opposition se levaient en chambre pour poser des questions. Ça venait des tripes, puis ils connaissaient leurs dossiers, puis ils faisaient des effets de toge, puis nous habituaient. Tu sais, ça faisait ce qu'on appelait la clique. Je suis désolée encore pour l'anglicisme. Mm-hmm. Mais par contre, là, cette semaine, ça m'a frappée. Je sais pas pour vous, mais les députés de l'opposition, tous partis confondus, se lèvent en chambre avec leurs feuilles, nous lisent leurs feuilles, puis ils vont s'asseoir. Mais on dirait qu'ils sont des figurants à la période de questions, qu'ils ont reçu un script juste avant de rentrer, puis on leur a dit, ben, quand on te fait signe, lis cette feuille-là. Tout le monde lit sa feuille, à part Marois Risky. Là, il faut arrêter avec ça, là. Il va falloir reprendre... tu sais, il y a l'art de la rhétorique, là. L'art de la rhétorique, c'est en période de questions qu'on doit le voir. C'est pas après la période de questions.
Donc, on veut des tribuns.
Tu sais,
souvenons-nous de Jean Charest, Bernard Landry... Et là, Pauline j'évoque Marois. Même pas... oui, Pauline Marois, lisez un peu ces questions. Mais, tu sais, des Lisa Frula, je sais pas. Et,
imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Tu sais, nous, la semaine, on l'a vécu, il y avait des périodes de préparation à la période de questions, des caucus. Tu lisais ta question devant le caucus des députés, vous étiez 30 dans une salle. Là, ils doivent se préparer tout seul. Ça doit être difficile. Il faut être quand même un peu indulgent.
À cause de la pandémie, la COVID, c'est un bon point, ça, Sophie. Ben oui, c'est vrai.
C'est pas la même pratique que la même préparation. Le comité de période de questions en virtuel versus le comité de période de questions dans une salle où tu te challenges, tu viens essayer des façons de poser des questions, des gestes. Hey, moi, je me souviens, Bertrand Saint-Arnaud, vous vous souvenez, pendant le scandale, de la construction qu'on demandait à la commission d'enquête, Bertrand Saint-Arnaud plaçait ses bras. Lui, il lisait pas ses questions. Il arrivait, il était prêt. Écoute, on avait même inventé des expressions pour catégoriser comment il plaçait ses mains, le prisme du scandale, le rectangle. Écoute, c'était fascinant.
Oui.
Mais tu sais, c'était préparé à l'avance, tout ça.
Ben oui, c'est ça.
Oui, mais je veux bien, mais c'est pas une raison. Si tu connais ton dossier et que tu es critique en matière de ce dossier-là, surtout si tu es chef d'un groupe d'opposition, tu devrais être capable de te lever et de t'adresser au gouvernement sans avoir une feuille que tu tiens dans ta main presque en tremblant. Là.
Mm-hmm. C'est sûr. Mais c'est mécanique. Là. C'est les panneaux dans l'Assemblée, les plexiglas, les masques.
C'est vrai.
Ça ne doit pas être évident.
En terminant, ben là, je donne la parole à Sophie qui va donner un méritas et un bonnet d'âne en même temps. Un cornet à deux boules.
Ça s'est passé en même temps. Écoute, autant Émilie Lessard-Ternier, députée de Rouyn-Noranda, de Québec solidaire, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, a été efficace et pertinente quand elle a dit cette semaine à Pierre Dufour relativement à l'expropriation, l'exportation du bois et le prix du bois, qu'il fallait qu'il mette ses culottes de nationaliste. J'ai beaucoup aimé son expression à elle, mais en contrepartie, le ministre Pierre Dufour, on appelait ça un bonnet d'âne aux abris. Pierre Dufour, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois qu'il se lève, on est terrorisé. Mais là, il est venu répondre, ça semble faire la sourde oreille par ma collègue. Mais
oui.
Quelle structure de phrase!
C'est le Laurent Lessard de la CAQ.
Mais comment peut-il aussi mal s'exprimer et être aussi confus? Je veux dire, Émilie Desjardins lui a répondu, le ministre est très bon dans les caricatures grossières. Moi, j'ajouterais à ça les caricatures grossières et incompréhensibles. Je veux dire, quand il se lève et qu'il parle, on comprend rien.
Yasmine, un mot là-dessus?
Hey, mais moi, je voudrais pas que Pierre Dufour débarque du Conseil des ministres, parce que honnêtement, il est très amusant à voir en période de questions. Là. Il met la vie dans cette période de questions-là. Si je l'écoute puis je la regarde pas visuellement, ben dès que Pierre Dufour a la parole, croyez-moi que je me branche puis je regarde ça aller, je sors le maïs soufflé et c'est un beau spectacle. Merci Pierre Dufour de nous faire rire et de nous faire stresser avant de répondre, parce qu'on sait pas vers quel côté de
on lui a donné
quelle réponse, quelle nouvelle expression on allait apprendre.
On lui a d'ailleurs donné un bonnet d'âne permanent. Il est comme dans notre panthéon. Il est comme dans notre panthéon des bonnets d'âne. Merci beaucoup, les bulletineuses.
Merci à toi.
Et c'est tout pour La Haut sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.